Donc, nous employons les termes dans les explications ou les indications que nous donnons, des termes qui sont lourds de sens et de temps en temps il faut un peu préciser ce qu'on veut dire. Donc, je vais essayer ce soir d'essayer de parler un peu du terme de liberté, voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire pratiquement. Non pas peut-être dans toute la richesse philosophique, mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Même si on peut bien évoquer aussi quelques aspects philosophiques du problème. Donc on peut se demander dans le fond combien est-ce que nous sommes libres ou bien combien est-ce que nous sommes déterminés. Quelquefois dans la méditation, on a l'impression que ça tourne en rond. Pas nécessairement qu'on veut tourner en rond, mais finalement, malgré soi, on a l'impression de tourner en rond. D'être victime de ces expériences, victime des pensées qui surgissent constamment, victime de la somnolence, victime des réactions. Donc évidemment, victime veut dire ne pas être libre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est libre et à ce moment-là, d'ailleurs, pourquoi méditer? Ou alors est-ce qu'on est complètement déterminé? Alors pourquoi méditer? Donc, quel est le sens dans notre pratique de la méditation? Je vais commencer par une petite citation de Rousseau parce qu'elle me semble intéressante. Elle souligne un aspect de la liberté, mais pas toute. Donc, alors que la plupart des philosophes voulaient différencier l'homme de l'animal en parlant de sa raison, Rousseau, lui, dit ce qui différencie ou distingue l'homme de l'animal, c'est sa liberté. Je vous cite qu'un tout petit bout de ce texte qui est un discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il donne un exemple assez amusant. Donc il dit: J'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. L'un choisit ou rejette par instinct, et l'autre par un acte de liberté. Ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. C'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes, et un chat sur des tas de fruits ou de grains. Quoique l'un et l'autre puissent très bien se nourrir de l'aliment qu'ils dédaignent, s'ils s'étaient avisés d'en essayer. Et donc ils déterminent bien, ils sont tellement déterminés qu'ils ne peuvent pas changer sont déterminés par l'instinct, il n'y a pas de possibilité de changer, il n'y a pas cette liberté. Alors évidemment, on va contraster ceci avec les hommes. C'est ainsi que les hommes, dissolus, se livrent à des excès qui leur causent la fièvre et la mort, parce que l'esprit déprave les sens et que la volonté parle encore quand la nature se tait. Clair que les excès de nourriture, on ne voit pas bien ce qui, dans la nature ou l'instinct, pousserait quelqu'un à boire trop d'alcool. Donc c'est bien là la volonté. Le vouloir, le désir, parle encore quand la nature, elle a fini de s'exprimer. Il y a bien longtemps qu'elle a jeté l'éponge. La nature commande à tout animal et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister. Et c'est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme. Donc pour Rousseau, ici, on a un premier aspect de la liberté qui est de ne pas être complètement déterminé par la nature, par l'instinct, le fait de pouvoir choisir, même si ce choix n'est pas toujours positif, puisqu'on choisit même de se détruire, choisit même l'excès par désir. Donc ici, l'homme n'est pas déterminé par la nature, on comprend bien le point qui est mis ici. Mais alors on peut se demander pourquoi est-ce que l'être humain pourrait agir pour son mal, contre son bien? Donc qu'est-ce qui va le pousser à agir si manifestement ce n'est pas la nature ou l'instinct qui le pousserait à l'excès? Donc est-ce qu'il le fait en toute liberté, ce qui semblerait un peu étonnant de se détruire par excès en toute liberté? Ou est-ce qu'il y a autre chose finalement qui n'est pas le déterminisme naturel, mais quelque chose d'autre qui semblerait agir l'être humain, même pour sa perte. Donc le bouddhisme analyse avec beaucoup de pertinence cette manière, dans le fond, dont l'être humain est poussé à agir. Certainement, une des premières descriptions psychologiques assez détaillées qui est faite dans les sutras. Je vais en citer un ici, où il développe un petit peu, il décrit l'enchaînement qui semble nous enfermer ici. C'est une version abrégée. Plus tard, dans les textes plus tardifs, on aura ce qu'on appelle les 12 liens, mais ici, dans les textes plus anciens, on a moins de liens, et qui me semble aussi plus clair et plus simple à discuter. Donc le Bouddha ici s'adresse à l'assemblée des êtres qui sont autour de lui, mais pose des questions qui semblent assez claires, assez précises. Il dit d'où viennent les controverses et les disputes, la souffrance et la détresse, l'arrogance et l'égoïsme. Donc les problèmes, où est-ce que ça vient? La souffrance, la détresse, les disputes, il dit, dites-le-moi. Il semble que c'est lui qui donne les réponses, en fait. Il fait les questions, les réponses. Mais il dit, c'est parce que l'homme est captivé par les objets et les personnes que naissent les disputes et l'arrogance. C'est cette fascination, positive ou négative, par les objets, les personnes, cette fascination qui fait qu'à ce moment-là, naissent les souffrances, la détresse, l'égoïsme, l'arrogance. Elle pose la question, alors d'où vient cette fascination? Et le désir est la source de cette fascination. Ici, le désir, il inclut aussi la colère, l'attachement et toutes ces émotions déséquilibrantes. Maintenant, d'où viennent le désir, la colère, l'ingratitude, le doute? D'où est-ce que ça vient, ceci? Il dit, de la notion, c'est agréable, c'est désagréable. C'est parce qu'il y a cette notion agréable, désagréable, qu'il y a une réaction. Quand il y a expérience agréable, désagréable, alors il y a une réaction de désir, de rejet, d'évitement, de résistance. Donc tout est dans cette manière de gérer les dimensions agréables et désagréables des expériences qui nous poussent dans cette réaction de désir, colère, ingratitude, doute. Maintenant, d'où viennent ces notions, c'est agréable, c'est désagréable? Et elles proviennent du contact. Sans le contact, elles n'existent pas. Donc le contact ici veut dire simplement ce moment de conscience où les organes sensoriels sont en contact d'objets, le moment de la vision, de l'audition, du toucher, ou le moment où une pensée surgit. Donc c'est ça qu'on appelle le contact. Le contact, ce n'est pas quelque chose de physique, même si c'est une image physique, mais c'est vraiment quelque chose lorsque quelque chose surgit dans la conscience. D'où provient le contact? Il provient du corps et de l'esprit. Voilà, on a cet enchaînement. Mais évidemment, si on essaie de se dire, alors à quel moment est-ce qu'on pourrait se libérer de cet enchaînement? Puisqu'il semble que lorsqu'il y a des sensations agréables ou désagréables, il y a un enchaînement, une sorte de réaction par attachement, par désir, par colère. Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut se libérer de cette chaîne-là, puisque c'est l'origine, d'après ce que nous dit ici le sutra, d'où viennent les disputes, la souffrance, la détresse, l'arrogance. Donc, dans cette analyse de cette succession de conditions, donc on peut se demander où est-ce qu'on va trouver un espace de liberté. Ceci semble un enchaînement bien emboîté, si on veut. Donc, à quel moment est-ce qu'il y a cette possibilité de la liberté? Donc, il est évident qu'on ne peut pas supprimer le corps et l'esprit. Il serait évidemment quand même un chemin assez bizarre. Donc, ceci, c'est quelque chose qui est là, qui est constamment là, qui est aussi notre richesse, l'existence corporelle et spirituelle que nous avons. Donc, on ne peut pas supprimer le corps et l'esprit, ni le contact. Fermant les yeux, la bouche, les oreilles, ou éliminant le monde, les personnes, ça n'a pas de sens. Donc dès qu'il y a un être structuré, un être humain structuré avec ses organes des sens qui fonctionnent, il y a nécessairement contact avec le monde environnant, avec les êtres, avec des choses qui se passent en soi-même aussi, sensations, etc. Donc on ne peut pas arrêter. Et dès qu'il y a ce contact, il y a cette dimension agréable, désagréable ou neutre de l'expérience. Et ça, ce n'est pas un choix. On ne se dit pas, tiens, cette douleur intense, je vais l'éprouver comme agréable. C'est spontané, ça surgit tout de suite. Donc on ne peut pas couper aussi ici la chaîne, intervenir ici. Par contre, la réaction par rapport à ceci, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une expérience est éprouvée comme agréable, désagréable ou neutre? La réaction, est-ce qu'on va réagir par désir, par attachement, par aversion, par évitement, par confusion, en évaluant? Là, il y a une possibilité de liberté. Non pas éviter les expériences qui surgissent, le contact, mais qu'est-ce qu'on fait avec la dimension agréable ou désagréable? Et nouveau, il y a quelque chose de complètement surprenant, c'est que ça reste le critère de valeur ultime dans notre existence, agréable ou désagréable. Voilà ce qui compte dans l'existence. C'est la seule chose qui compte. Alors on peut trouver certaines choses agréables et d'autres pas agréables, avec des différences parmi. On peut aimer les choses sophistiquées, la musique légère, classique, ou je ne sais pas, le rap, on a des goûts différents. Enfin, il y a quand même la notion qu'il y a quelque chose d'agréable. Ou éviter tout ce qui est désagréable. Et ce qui nous conduit du matin jusqu'au soir, c'est exactement l'accumulation d'expériences agréables et l'évitement d'expériences désagréables. On peut très bien observer notre vie ici communautaire, comment elle se situe. C'est trop ouvert, il fait froid, c'est désagréable. Ou bien, ah, il fait bon, il fait chaud à l'intérieur, c'est agréable. On choisit la place qui nous convient, dans le réfectoire aussi, si on a le temps de choisir. Voilà, donc constamment, c'est le critère de valeur. Ce qui produit cet aspect agréable ou désagréable peut être extrêmement multiple, ce qui nous donne l'illusion que nous sommes sophistiqués, mais quand on revient à ce qui est monnaie courante, alors c'est extrêmement, extrêmement restreint. Donc la manière que nous avons de réagir habituellement, c'est de nous tourner vers ce qui est agréable, donc par attachement, ou souhaiter ce qui est agréable, et nous détourner de ce qui est désagréable par aversion, par confusion, ou il y a d'autres stratégies que nous pouvons avoir, on s'endort ou autre. Mais c'est en général ce qui nous agit sans même que nous en prenions conscience. Il y a des émotions qu'on n'aime pas tellement éprouver, mais on pourrait se demander pourquoi, dans le fond. Et si on essaie d'être en contact, on se rend compte parce qu'elles sont désagréables. Et nous verrons que cet aspect-là peut nous aider à être en contact juste dans l'expérience. Donc nous sommes liés. Je vous donne la citation d'un autre philosophe parce que ça me semble intéressant ici. Spinoza, il dit, les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres, et cette opinion consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Donc ce qu'il dit, parce qu'on est conscient, on croit qu'on choisit, ceci ou cela, mais on ne sait pas pourquoi on choisit. Donc on se pense libre, mais on ne sait pas ce qui nous agit, ce qui pousse nos choix. Donc c'est exactement, il met le point ici sur ce qui nous intéresse, ce que nous allons explorer dans la méditation, c'est exactement non pas l'action que nous faisons, mais c'est qu'est-ce qui va nous pousser ou nous déterminer à choisir un type d'action ou un autre. Prendre conscience de, il dit, est ignorant, ils sont ignorants des causes. Et ça, c'est exactement ce qui nous intéresse. C'est quand on prend conscience des causes, à ce moment-là, on n'agit plus de manière automatique. On n'est plus assujetti à ces causes, à ces émotions déséquilibrantes. Et on pourrait se demander qu'est-ce qui nous permet, dans le fond, cette sagesse qui fait qu'on peut comprendre les causes par lesquelles, ou qui nous pousserait à agir dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce qui nous permet de voir ceci clairement? Donc on a bien ici la notion fondamentale de liberté ou de déterminisme que nous étudions. Et comme je l'ai dit, c'est bien ce qu'on vit dans notre méditation. Quelquefois, on a l'impression de la subir, on subit les expériences. Mais là, il faut faire une distinction dans la conscience. Parce qu'on a une sorte de conscience dans son mode d'activité, de faire, qui est la conscience qui pose au monde, qui vise des objets, des personnes, des expériences, qui perçoit ceci ou cela, qui pense ceci ou cela, qui a un rapport au monde, qui est un rapport de visée, d'intention. C'est dans le fond ce que fait la conscience, tout son dynamisme de voir, d'entendre ceci, cela, d'organiser, d'avoir une intention d'agir, de guider cette action, qui fait que nous voyons, si nous voulons voir, nous regardons dans une certaine direction, si je veux voir ou la vallée, ou la belle lumière au coucher du soleil. Donc je me tourne et je peux voir ce qui se passe. Donc il y a cet aspect totalement utilitaire de la conscience que nous utilisons évidemment du lever jusqu'au coucher. Et ça, nous connaissons bien ce fonctionnement de la conscience. Mais ce fonctionnement-là, il a un côté utilitaire, mais aussi un côté automatique, pris dans les intentions particulières, les objectifs particuliers, alors nous lançons dans cette tâche. On pourrait très bien, la cloche sonne le matin pour le petit déjeuner. On a entendu, on a compris, c'est le petit déjeuner, etc. On se lève, on marche, on va prendre son petit déjeuner, on choisit ce qu'on veut, on s'assied à table. On ne s'est pas trompé, on n'est pas allé, on n'a pas pris la route de derrière pour aller prendre son petit déjeuner. On sait exactement où il se passe. On n'a de préférence pas versé le lait dans l'assiette. C'est comment ça fonctionne. Mais peut-être qu'on a été complètement absent. On a été parfaitement efficace, mais pas du tout là dans toute l'histoire. Donc on se retrouve au réfectoire, on peut se surprendre. Donc il y a un autre aspect de la conscience que son aspect fonctionnel, utilitaire, de nous donner toute cette information, d'aller vers le monde. Il y a un autre aspect où la conscience est consciente d'elle-même. Dans chaque activité, dans chaque perception, cette qualité qu'a la conscience d'être consciente d'elle-même. Si on prend l'exemple de l'audition, je peux écouter très attentivement des sons qui m'intéressent. Je suis très attentif, mais pas du tout présent. Mais le moment où je prends conscience que je suis dans l'écoute, qu'est-ce qui se passe en moyenne expérience auditive? Alors à ce moment-là, la conscience est consciente d'elle-même dans cette expérience. Il y a conscience de soi. Et ce qui est révélé dans cette expérience-là, ce n'est pas tellement la cause du son qui est entendu, mais c'est une conscience qui entend, un être qui est là pour entendre. Vous voyez, toute expérience révèle deux choses. Elle révèle le contenu de l'expérience, le son entendu, les nuages ou la couleur du ciel vu, révèle quelque chose, mais aussi nécessairement, elle révèle qu'il y a conscience. Une conscience qui voit, qui entend. Et en général, nous sommes tellement obnubilés par ce qui est vu, ce qui est entendu, que cette conscience de conscience, dans l'expérience elle-même, elle est complètement, on dirait, passée sous silence. Elle est tellement, tellement faible qu'elle est, pour ainsi dire, inexistante. Dans l'exemple que j'ai pris où je vais prendre le petit déjeuner, il y avait conscience de chaque chose. J'ai été conscient de la porte, des escaliers, de toutes choses. Mais il n'y avait, pour ainsi dire, aucune conscience de conscience dans cet exemple-là, aucune présence dans cette action-là, tant j'étais impatient de prendre mon petit déjeuner. Donc, tant que nous restons fascinés par les objets, les contenus des expériences, cette conscience d'elle-même, dans l'expérience elle-même, elle est extrêmement faible. Donc lorsqu'on parle de conscience ou conscience de soi, c'est pas moi je fais ceci, moi je fais cela, c'est quelque chose de bien antérieur à ceci. C'est la conscience consciente d'elle-même, elle l'est par nature. Sartre exprimait ceci de manière qui me semble assez parlante. Il disait, toute existence consciente existe comme conscience d'exister. Cette conscience d'exister. C'est bien ça. Pas conscience d'exister, moi je suis là, moi j'existe. C'est conscience d'exister avant cette personnification. Donc il y a, c'est ce que nous mettons en jeu dans notre pratique méditative, en suspendant cet intérêt, cette fascination pour toutes les expériences, pour ce qui est entendu, ce qui est vu, ce qui est éprouvé, en suspendant cet intérêt pour être un peu plus disponible à cette conscience de conscience, c'est-à-dire la présence dans chaque expérience. Et à ce moment-là, ce qui est réalisé, ce n'est pas ce que la conscience fait, mais c'est ce qu'elle est, et ce que nous sommes, évidemment. Nous venons pas à titre de moi ou de je, mais c'est essentiellement ce que nous sommes, c'est la conscience, sans vouloir partir plus loin dans cette description. Donc lorsque nous, cette conscience de conscience, elle prend aussi conscience de sa qualité, c'est-à-dire elle va prendre conscience lorsqu'il y a le désir, lorsqu'il y a l'aversion, lorsqu'il y a la colère, lorsqu'il y a l'attachement, ce qui fait que lorsque la dimension agréable ou désagréable d'une expérience surgit, et qui peut surgir, le désir ou l'aversion, à ce moment-là, lorsque nous prenons conscience de ceci, cette conscience de la qualité de conscience, comment est-ce que j'éprouve cet aspect agréable ou désagréable de cette tristesse ou de cette joie, lorsque j'en prends conscience, à ce moment-là, j'ai le choix d'agir. Soit j'agis cette émotion, soit je ne l'agis pas. Pour ceci, il s'agit donc de prendre conscience de cette qualité à ce moment-là. C'est bien ce que nous décrivons dans la méditation quand nous parlons d'être conscient de l'attitude. Comment est-ce que je me dispose dans cette expérience? Est-ce qu'il y a aversion, résistance, désir, confusion? Prendre conscience de ceci, non pas comme une sorte d'objet. Voilà, il y a désir, il y a attachement, mais pour me rendre compte, voilà comment ma conscience est dans cette expérience. Et j'ai le choix, soit de l'agir, soit de ne pas l'agir. Mais si je ne suis pas conscient de ceci, alors je l'agis immédiatement. Je n'ai pas pris conscience qu'il y a quelque chose de désagréable dans cette vague torpeur. Et je suis déjà en train d'essayer de faire quelque chose, de l'éviter, de me redresser, de mettre de l'énergie pour éviter d'éprouver ceci. J'ai eu ce matin une expérience agréable. Je me la rappelle maintenant. Il y a un désir. Alors je suis agi par ceci, j'essaie d'anticiper cette expérience, de l'appeler par la mémoire. Je ne suis pas conscient d'agir ce désir. Mais si j'en prends conscience, alors à ce moment-là, je reste parfaitement présent dans ceci et libre, non pas contraint, pas déterminé par cette qualité de la conscience. Donc ce n'est pas le fait de n'avoir plus aucune réaction, d'être une page neutre, même si parfois dans la pratique méditative, ça arrive, cette grande équanimité. Ou si vous voulez, cette grande équanimité qui est une particularité de la méditation, une qualité extraordinaire, elle vient que dans la mesure où justement on a pris conscience des émotions et on ne les agit plus. Donc il y a là un choix. Mais pour ceci, il y a un aspect important, c'est que tant qu'on se considère victime de quelque chose, alors on ne peut pas avoir accès à cette liberté. Parce que la position de la victime, c'est justement de placer à l'extérieur ce qui nous rendrait victime. La position de victime, c'est un abandon de sa liberté, c'est le responsable, la responsable, ce qui est responsable, qui détient la clé de ma liberté. Donc dans la méditation, parfois on se sent victime. Ah oh mince, encore ça, encore ça. On va bien se plaindre, mais enfin on n'a pas beaucoup d'espace pour se plaindre. Mais tant qu'on est dans cette attitude-là, alors évidemment on ne peut pas explorer la liberté puisqu'on n'a pas la clé de la liberté. C'est dans la mesure où nous sommes conscients de ce qui pourrait nous pousser à agir qu'on peut ne pas marcher dans la combine. Je vais donner des exemples pratiques. J'ai un ami aux États-Unis qui enseigne dans les prisons la méditation. Il m'a dit qu'il pourrait arrêter d'enseigner la méditation partout ailleurs, mais certainement pas dans les prisons. Pour lui, c'est vraiment une expérience extrêmement intéressante. Il m'a raconté deux histoires qui se sont passées. Il y a un moment que je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le revoir pour qu'il me raconte d'autres histoires de ce type. Il m'a raconté une. Donc il va une fois par semaine dans la prison pour méditer un peu avec un groupe de prisonniers. Et il m'a raconté une deux histoires. Une histoire où un des prisonniers s'est approché de la grille, une camionnette qui partait. Il lui semblait reconnaître un gars de son village, donc il voulait voir si c'était vraiment, il avait vraiment affaire à un gars de son village qui était au volant de cette camionnette. Et alors un garde a cru qu'il voulait s'évader, donc il a sifflé. Je pense que beaucoup de gardes sont arrivés et lui ont tombé dessus avec des matraques, imagine. Et il dit que avant il aurait cogné, il se serait défendu, mais là il a laissé faire. Il a laissé faire. Alors après évidemment il a passé devant la commission de la prison, et c'est le gardien qui a été condamné, pas le prisonnier. Il s'est rendu compte que la réaction du gardien était exagérée. Et pourquoi est-ce qu'il a pu faire ça? Parce que, évidemment, il n'a pas du tout réagi. S'il s'était défendu, on aurait pu imaginer ça prouve qu'il voulait partir, mais il s'était habitué dans sa méditation à prendre conscience de ses émotions. Ici, c'est peut-être de la colère. Et il ne l'a pas agi. Donc ici, on peut dire qu'il y a eu pour lui un espace de liberté. Donc quelque chose d'assez concret, d'assez simple. On m'a raconté une autre histoire. Un prisonnier qui était là depuis 13 ans, il était arrivé à 23 ans en prison et il avait 36. Et puis il devait passer devant une commission pour voir si on pouvait le libérer. Et c'était la septième fois qu'il devait passer devant cette commission. Et lorsqu'il l'a vu l'après-midi, il a dit, je crois que je ne vais pas y aller, c'est tellement terrible ces commissions, je pense qu'il presse de questions. Il a dit, je ne crois pas que je vais y aller. Vraiment, c'est beaucoup trop pénible. mon ami est rentré chez lui, et puis 2 jours après, on l'appelle au téléphone, c'était ce prisonnier, il dit, tu viens boire une bière? Et alors il est passé devant la commission en essayant de rester dans son point d'ancrage, etc., pour rester calme et serein dans cette expérience qui était douloureuse. Et là, mon ami lui a demandé, ben, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il a 36 ans, évidemment. Il a dit, moi, j'aimerais bien commencer des études. Ouais, bon, c'est intéressant. Aux États-Unis, les études, en général, c'est assez cher. Et cet ami qu'enseignait, donc, qui était professeur dans une école privée, il a rencontré des parents d'élèves quelques jours de ceci. Et puis, il a parlé à un parent d'élève, il a raconté cette histoire de ce prisonnier qui rêvait de faire des études. Et ce parent d'élève, il lui a dit, bah, écoute, s'il veut, moi je veux bien financer ses études. Qu'aux États-Unis, ces écoles privées, ça vaut facilement 30 ou 40 000 dollars, donc ce n'est pas une petite affaire, quoi. Donc mon ami l'a appelé, il lui a dit, écoute, voilà, si tu veux, on peut trouver de l'aide pour toi, si tu veux faire ces études. Et cet ex-prisonnier a dit, je vais en parler à mes parents quand même. Et finalement, il a commencé, donc s'est engagé dans ses études. Donc on voit là des manières extrêmement pratique d'être libre à un moment donné où c'était très important de ne pas avoir été assujetti aux émotions, en n'étant pas conscience qu'elles surgissent et puis tout d'un coup les agir. Donc il y a là une liberté par rapport à l'émotion, de ne pas être agi par l'émotion. Mais on pourrait dire que dans ces deux cas, l'émotion était quand même douloureuse. Les deux personnes ont subi l'émotion, mais n'ont pas été agies, n'ont pas marché dans la combine. Donc c'est un premier niveau de liberté. Mais il s'agit aussi d'établir une plus grande intimité à l'émotion elle-même pour en découvrir. Ici, on est conscient de ce qu'elle fait, de ce que la colère fait dans son action, ce que le désir fait dans son action. Mais pour se libérer vraiment du pouvoir de l'émotion, il s'agit de savoir ce qu'elle est, quelle est la nature elle-même de l'émotion. Et pour ceci, il s'agit d'établir une plus grande intimité à l'émotion, la reconnaître déjà, comme ça a été le cas dans ces deux histoires, est quelque chose d'important. Il y a de la colère et elle n'est pas bonne conseillère. Je n'ai pas envie d'être agi par ceci. Mais lorsque surgit une émotion, dans la méditation de tristesse, de joie, quelle que soit l'émotion qui pourrait surgir, ou de tranquillité, même si on ne va pas dire que la tranquillité est une émotion, mais l'expérience intérieure. Donc il s'agira, dans la plus grande intimité, de vraiment faire l'expérience de ce qu'est la tristesse. Qu'est-ce que c'est que cette tristesse que j'éprouve en ce moment? Sans tellement m'attacher à la notion du je. Moi, je suis triste, je suis encore triste. Dans le fond, qu'est-ce que c'est que cette tristesse? Qu'est-ce que c'est que d'éprouver de la tristesse? La tristesse, ce n'est pas quelque chose d'objectif qu'il faudrait extraire du corps. Chez un chirurgien qui va sortir la tristesse, comme ça, la colère. Même si des fois, nos réactions naïves semblent répondre un peu à ce schéma. L'émotion, c'est simplement la coloration que prend la conscience. La conscience, elle a cette capacité, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, qui est une capacité extraordinaire, qu'a la conscience de s'attrister, de se réjouir, d'être dans la joie, de s'assoupir. C'est extraordinaire. Comment la conscience peut, d'une certaine manière, se voiler à elle-même. Dans l'assoupissement. Complètement fascinant, s'attrister. Ça veut dire quoi? À nouveau, ce n'est pas un objet. La conscience s'attriste. Tout d'un coup, elle se met dans une sorte de mode particulier qui est la tristesse. Et quand elle se met dans ce mode-là, tout change. L'éclairage change, tout paraît un peu moins brillant, tout paraît un peu gris. Ça, c'est la conscience s'est transformée, attristée, et puis elle a changé tout le monde environnant. La conscience s'est irritée, et elle a changé tout le monde environnant. Rien n'est à sa place, rien ne joue. La conscience est dans la somnolence et dans le fond, tout s'estompe. Mais la qualité de la conscience est toujours d'être consciente. Elle apparaît comme ceci. Donc dans la tristesse, lorsque on explore un peu la nature de la tristesse, on va voir que sa nature, sa substance, pour ainsi dire, c'est la conscience. Ce dont elle est faite, c'est la conscience. La joie aussi, elle est conscience. Donc la tristesse, ce n'est pas un objet, une expérience dont on devrait prendre conscience. C'est absurde, puisque la tristesse, elle est déjà conscience. Donc entre tristesse et conscience de tristesse, il n'y a pas de différence. Ça ne veut rien dire. On devrait prendre conscience de la tristesse, comme on prend conscience que, tiens, il y a un petit tapis là. Même chose que de la joie. La joie, c'est sa substance, sa nature, son être, c'est la conscience qui apparaît sous cet aspect de joie. Mais ce qu'elle est, elle est conscience. La tristesse est conscience. Donc lorsqu'on se relie à cette dimension d'être conscience, qui apparaît comme tristesse, qui apparaît comme joie, à ce moment-là, on n'est plus du tout assujetti à l'émotion. On ne la subit plus. N'altère pas cette qualité de conscience. La conscience est conscience. Et ceci ne peut être exploré que dans la mesure où on a une sorte de curiosité. C'est quoi la tristesse? En général, ce qui nous ennuie, c'est le moi, je suis triste. C'est le moi dans la tristesse qui pose problème. Mais la tristesse elle-même, qu'est-ce que c'est? Cette qualité particulière de conscience. La joie, qu'est-ce que c'est? Cette qualité particulière de joie. Donc dans la méditation, lorsqu'il y a et surgissent des expériences de calme, de tranquillité, de joie, de la même manière, la conscience calme, tranquille, la conscience agitée, c'est la même conscience qui apparaît sous forme d'agitation ou sous forme de calme. Donc lorsqu'on reste relié à la conscience, alors peu importe le calme ou l'agitation. Un peu comme peu importe l'image qu'il y a dans la télévision, si je veux acheter un poste, je vais dire je veux pas celle-ci parce qu'il y a des fleurs. Moi, je n'ai pas envie d'une télévision avec des fleurs. J'en veux une avec des paysages. Donc là aussi, ça n'a pas d'impact. Et c'est dans cette intimité, lorsqu'il y a cette intimité à la conscience, tristesse, joie, de tranquillité. Et j'insiste bien sur l'aspect qu'il est aussi important, lorsque les expériences sont positives, d'explorer ceci. Parce qu'on peut très bien se plaire dans une expérience agréable. Oh, c'est chouette, c'est calme, c'est tranquille. Et on rate cette opportunité d'approfondir. Parce que c'est la même confusion, le même assujettissement qui lave encore, c'est pas mal, quand c'est de la joie, de la tranquillité. C'est la même confusion qui sera plus difficile à gérer lorsque ça sera la tristesse ou l'aversion ou l'irritation. Donc on ne s'identifie pas dans le sens où, dans cette intimité à cette conscience triste ou joyeuse, on se rend compte qu'il n'y a pas de moi. Non pas parce qu'on l'a rejeté, simplement parce qu'on l'a, pour une fois, on ne l'a pas amené avec. Il n'y a pas la pensée je qui surgit ou la pensée moi. Et ça ne vient pas parce qu'on essaie de s'en défaire. Il faut l'éliminer. Mais simplement parce qu'on est plus intéressé à cette conscience triste, à cette conscience joyeuse. C'est cet intérêt, cette curiosité qui fait que tout le coup, il y a juste ça. Et à ce moment-là, la tristesse, c'est juste la tristesse, ça n'a rien de dramatique. C'est juste cette manière qu'a la conscience d'apparaître à ce moment-là. Donc chaque expérience nous donne cette opportunité. Le défi est le même dans la joie, dans le calme ou la tranquillité, que dans la tristesse ou l'impatience ou l'inquiétude. Il est presque un peu plus manifeste dans quelque chose de difficile, alors que quand c'est chouette, c'est tranquille, calme, on a moins envie de questionner. Ouais, on posera des questions la prochaine fois. Alors, on va rester un peu dans ces expériences-là. Donc il y a liberté dans la mesure où nous sommes conscients de ce qui se passe. On peut dire que nous ne sommes ni déterminés complètement, ni libres complètement. Nous sommes libres dans la mesure où nous sommes pleinement conscients de ce qui nous anime, et nous sommes déterminés dans la mesure où nous ne sommes pas conscients. Donc nous sommes dans une situation d'une richesse immense. Nous ne sommes ni déterminés par la nature, comme le décrivait Rousseau, ni complètement libres. On n'aurait même pas le choix d'être dans la confusion. On a cette situation, dans le fond, où on peut soit être libre, soit déterminé, dans la mesure où on veut bien être conscient de ce qui se passe, d'assumer pleinement cette existence consciente ou non. C'est vraiment une question aussi d'assumer cette situation. Il y a bien des gens qui vous diront, j'ai pas envie de venir méditer. D'ailleurs, ne les obligez pas. J'ai pas envie de venir méditer parce qu'ils n'ont pas du tout envie de prendre conscience, d'assumer cette responsabilité d'être pleinement conscient. Préférons être dans ce premier niveau de conscience, dans ce qu'elle a de faire, d'efficacité. Complètement déterminé par les émotions, par les états d'âme. Ou alors, cette manière que nous avons de nous arrêter dans la méditation, de nous arrêter d'être simplement dans le faire de la conscience pour commencer à s'ouvrir à ce qu'elle est vraiment. Dans notre méditation, c'est ce qui est en jeu, d'essayer d'être conscient de l'attitude, de ce qui nous anime, parfaitement pour ne pas en être assujetti, pour ne pas être le jeu de ce qui nous anime. C'est à la mesure où on est parfaitement conscient de ce qui nous anime qu'on peut être libre. Il est vrai que ce n'est pas un choix comme ça, on se dit chouette, de bleu demain, je passe ma journée complètement conscient comme ça. Je vais être libre. Ça va être une bonne journée. Parce qu'être conscient, comme il exprime ici, c'est pas simplement reconnaître. Ah voilà, il y a de la colère, voilà, il y a de la tristesse. Être conscient, c'est l'éprouver beaucoup plus intimement. Fait de reconnaître, on peut dire, c'est un peu le cas des deux prisonniers que j'ai donnés. Au moins, ça déjà, ça aide à dire, voilà, je reconnais. Je suis en colère, je vais faire attention dans des situations qui étaient évidemment importantes pour eux. Ça donne déjà une liberté d'action, mais si on veut aller plus loin pour se libérer de l'émotion elle-même, de ce qu'elle peut avoir de contraignant lorsqu'on est confus à son propos, alors il ne s'agit pas simplement de la reconnaître, mais d'éprouver cette conscience de conscience dans l'émotion. On a appelé présence ou être dans l'être plutôt que dans le faire. L'émotion, elle fait quand elle m'agit. L'émotion, elle est quand je suis simplement là, dans cette conscience de l'émotion. Voilà donc quelques mots sur quelques aspects de la liberté. On n'a pas fait le tour ici de la question, mais ce que je voulais faire, c'était parler un petit peu comment, dans d'autres pratiques, elle se joue, hein, on pourrait dire à chaque instant. Comment j'ai cette possibilité d'explorer cette dimension de l'expérience.